Merci d'écouter RFI, 9h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Cantner.
Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure avec à la une un reportage à Port-au-Prince où les élèves ont repris le chemin de l'école. Quelques élèves, ils étaient peu nombreux dans la capitale comme dans les autres villes d'Haïti, vous l'entendrez. On parlera aussi des défis qui attendent la nouvelle présidente au Mexique. Claudia Sheinbaum a pris ses fonctions hier et nous recevons le chercheur David Recondo pour en parler dans quelques minutes. Et puis l'actualité des Outre-mer comme chaque jour. Benoît Ferrand, le mouvement à l'origine des manifestations contre la vie chère en Martinique, estime qu'on est encore loin du compte.
Oui, les négociations doivent en principe reprendre lundi prochain. Un protocole d'accord est d'ores et déjà sur la table, mais le secrétaire et le président du RPRAC expriment eux aussi d'ores et déjà leur insatisfaction et leur impatience. Nous les entendrons.
Benoît Ferrand, on vous retrouve tout à l'heure et tout de suite c'est le journal.
RFI Midi.
Avec Charlotte Hydrac et on commence par cette information, le secrétaire général de l'ONU, persona non grata en Israël.
L'État hébreu reproche à Antonio Guterres de ne pas avoir condamné nommément l'Iran pour son attaque la nuit dernière. Le tir de près de 200 missiles vers le territoire israélien, la plupart ont été interceptés par la défense antiaérienne. Et avec l'aide des États-Unis, Jake Sullivan est conseiller à la sécurité nationale du président américain.
L'armée des États-Unis a collaboré étroitement avec les forces de défense israéliennes pour aider à défendre le pays contre cette attaque. Des navires destroyers américains se sont joints aux unités israéliennes de défense aérienne en tirant des missiles antimissiles. Le président Biden et la vice-présidente Harris ont suivi l'attaque et la réponse dans la salle de crise de la Maison-Blanche avec leur équipe de sécurité nationale. Nous travaillons encore avec les forces de défense israéliennes et les autorités en Israël pour évaluer l'impact de l'attaque. Mais à cette heure, nous n'avons pas connaissance de victimes tuées en Israël. Nous suivons les informations sur la mort d'un civil palestinien à Jéricho, en Cisjordanie. Nous n'avons pas connaissance de dommages sur des avions ou des moyens militaires stratégiques en Israël. Pour faire court et en fonction de ce que nous savons à ce stade, cette attaque semble avoir été inefficace et elle a été déjouée.
Voilà le conseiller à la sécurité nationale du président américain, propos recueillis par Guillaume Nodin. Alors, quelle sera la suite? C'est très incertain pour le moment, selon Israël. L'Iran a commis une grave erreur et en paiera le prix, je cite. L'ancien premier ministre israélien Naftali Bennett appelle à la destruction des installations nucléaires de l'Iran. Téhéran, de son côté, menace de frapper de nouveau et plus intensément Israël en cas de représailles. L'Allemagne vient d'appeler ses ressortissants à quitter l'Iran. Parallèlement, des combats se poursuivent à la frontière entre le nord d'Israël et le sud du Liban. L'État hébreu a dépêché des renforts militaires dans le secteur.
En Ukraine, après 2 ans et demi de combats, de résistance, l'armée s'est finalement retirée de la ville de Vuhledar.
Dans l'est de l'Ukraine, Vuhledar désormais donc occupée par les Russes. Tout un symbole pour cette localité stratégique située entre Donetsk et Mariupol et qui pourrait permettre à la Russie de rallier les fronts sud et est, serait issu de Rileudu.
Des soldats russes qui agitent des drapeaux en haut d'immeubles totalement détruits. Les forces russes affirment depuis mardi soir que cette ville, qui consiste en plusieurs immeubles d'une dizaine d'étages posés sur une immense plaine dans le Donbass, serait tombée entre leurs mains. Et si l'armée ukrainienne a pendant plusieurs heures refusé d'admettre son retrait, elle vient officiellement de confirmer que ses troupes doivent quitter la ville pour préserver ses soldats et ses équipements. Vuhledar, qui comptait environ 15 000 habitants avant la guerre, se situe au carrefour des fronts Est et Sud, à proximité de la ligne de front. Mais elle avait résisté à plusieurs assauts depuis le début de la guerre. Elle est aussi située sur une petite colline dans ce paysage de plaine et ses immeubles sont idéaux pour les opérateurs de drones ou les snipers, car la vue y est très dégagée. Sa chute ouvre la route vers Kourakové, une cité un peu plus au nord, et qui permettrait à l'armée russe de progresser rapidement. Cerise sur le dû, Kiev, RFI.
En France, le Premier ministre a prévenu hier, il va falloir se serrer la ceinture et ça commence à se préciser. Le projet de loi de finances 2025 a été transmis au Haut Conseil des Finances ce matin, au Conseil des Finances publiques pour consultation. Et pour réduire le déficit à 5% du PIB l'an prochain, le gouvernement prévoit un effort de 60 milliards d'euros. Par ailleurs, à l'Assemblée, la commission des lois a rejeté massivement, c'est très clair, la proposition de destitution d'Emmanuel Macron. C'est le parti de la France insoumise qui avait déposé ce texte. Elle accuse le chef de l'État de ne pas avoir respecté le résultat des législatives.
Le président français discret sur la scène nationale, il avait rendez-vous tout à l'heure avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin.
Oui, cette rencontre n'a pas été très médiatisée. C'était la première dans la capitale allemande depuis ces législatives françaises anticipées. Emmanuel Macron qui prend part là, à une rencontre des milieux d'affaires et de responsables économiques. Il doit évoquer la compétitivité européenne. Et Pascal Thibault, on l'a dit, cette visite a été plutôt discrète et ça tranche avec les précédentes à Berlin cette année.
Oui, tout à fait. C'est le quatrième déplacement d'Emmanuel Macron dans la capitale allemande. Il y avait eu un discours à la mémoire de Wolfgang Schäuble au Bundestag et puis les fastes de la visite d'État fin mai. Aujourd'hui, le président français, à son arrivée, a rencontré Olaf Scholz à la chancellerie, mais aucune conférence de presse ne figurait à l'ordre du jour. Les deux responsables sont affaiblis. Le chancelier bat des records d'impopularité à un an des élections générales et puis le président français a moins de marge de manœuvre depuis les dernières législatives. Les deux responsables l'ont évoqué d'après un communiqué de la chancellerie, la crise au Moyen-Orient, leur soutien à l'Ukraine ainsi que le prochain sommet européen à la mi-octobre et le rapport Draghi sur la compétitivité de l'Europe. C'est d'ailleurs de cela dont va parler dans quelques minutes Emmanuel Macron lors du Berlin Global Dialogue. Le président français et le chancelier auront sans doute évoqué un autre dossier qui les sépare, comme celui des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, sur lequel Bruxelles doit trancher vendredi. Une défaite de Berlin qui s'opposait à ces mesures est attendue. Alors, autre question, l'Allemagne obtiendra-t-elle en revanche des concessions de Paris sur l'accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur, un accord que Berlin, en revanche, défend, contrairement à la France.
Pascal Thibault, en direct de Berlin. Paul Watson reste en prison, le défenseur des baleines, fondateur de l'ONG Sea Shepherd, maintenu donc en détention jusqu'au 23 octobre, décision de la justice du Groenland, dans l'attente de la décision sur la demande d'extradition du militant écologiste par le Japon. Au Mexique, Claudia Sheinbaum, tout juste dans ses fonctions de première femme présidente du pays, elle doit se rendre aujourd'hui à Acapulco pour faire le point sur les dégâts provoqués par l'ouragan John. Investie hier, Claudia Sheinbaum a décliné ses priorités. Et sur le plan environnemental, Pauline Iglès, elle veut limiter la production de pétrole.
Oui, elle entend abaisser le plafond de la production de pétrole à 1,8 million de barils par jour, là où la réforme de l'énergie impulsée en 2013 par l'ancien président Peña Nieto proposait une production de 3 millions de barils par jour. Un objectif qu'il n'est pas possible de conserver pour l'environnement, a-t-elle expliqué. Pour absorber la croissance de la demande en énergie, Claudia Sheinbaum mise plutôt sur une amélioration de l'efficacité énergétique et sur la transition vers les renouvelables. Le plan national pour l'énergie sera présenté dans quelques jours avec déjà la promesse d'investissement dans la transition et dans les systèmes de transmission électrique. Cela dit, la production d'hydrocarbures liquides a déjà chuté et tourne autour de ce cap d'1,8 million barils quotidiens. Et alors que selon Reuters, le mois dernier, une nouvelle raffinerie de Pemex aurait exporté sa première cargaison vers l'Inde, la nouvelle présidente promet que l'objectif fondamental de l'entreprise semi-publique restera de répondre à la demande intérieure.
Et on revient dans un instant sur les chantiers de Claudia Sheinbaum au Mexique. Avant cela, on dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Eh bien, selon des chercheurs australiens, elle fait aussi pousser les champignons. Des scientifiques ont découvert que diffuser un son monotone, ça ne marche pas avec le rap ou la salsa, c'est comme une sorte de bruit blanc, et bien ça stimulerait l'activité d'un champignon microscopique connu pour favoriser la croissance des végétaux.
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci, cher Alain Tidrac. On parle de l'actualité du continent américain et d'Haïti durant les 20 prochaines minutes.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Les villes d'Haïti voient de nouveau circuler quelques enfants en uniforme en route vers l'école depuis hier, mais la reprise est timide. Surtout à Port-au-Prince, ils ne sont pas très nombreux à se rendre en classe. Les places manquent, car certaines écoles accueillent toujours des déplacés, les gangs menacent toujours et les moyens font défaut. Eux aussi, les subventions promises par le gouvernement n'arrivent toujours pas. Notre correspondant Peterson Luxama a rencontré les rares écoliers aperçus dans les rues de la capitale.
Dans cette école située à Bois-Verna, l'heure de la récréation a sonné. Ce n'est pas la grande affluence. Toutefois, les quelques rares élèves qui répondent à l'appel se disent enthousiastes.
J'ai remarqué que beaucoup d'enfants ne sont pas encore venus, mais je suis content d'être là ce matin.
Pour le premier jour de classe, je suis présent et je suis heureux que mes parents aient fait l'effort de m'envoyer.
Je suis contente d'être de retour à l'école.
Nous avions très envie d'aller à l'école. Grâce à Dieu, c'est la rentrée.
Depuis quelques années, à Port-au-Prince, l'insécurité grandissante due à l'activité des gangs armés a toujours perturbé l'année scolaire. Vanessa et son amie Carla, élèves en classe terminale, disent souhaiter le contraire cette année.
J'aimerais que cette année ne soit pas comme les années précédentes et que nous passions une bonne année scolaire.
Je souhaite que cette année scolaire soit la meilleure de toutes, car nous n'avons pas pu compléter une année entière jusque-là.
C'est une rentrée scolaire en demi-teinte ce 1er octobre. Certains élèves ne peuvent pas encore aller en classe. Une réalité que reconnaît le chef du gouvernement. En visite dans un lycée de la capitale, Gary Conny a exprimé son insatisfaction.
Ce matin, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce qu'il y a encore près de 40 écoles qui restent encore occupées. Les élèves ne peuvent pas avoir accès à leur espace habituel pour aller à l'école.
Notons que c'est dans le département du Sud que le pouvoir en place a lancé l'année scolaire. Une année scolaire incertaine pour de nombreuses familles, surtout pour celles déplacées par les violences des gangs armés qui n'ont pas la possibilité de permettre à leurs enfants de regagner les salles de classe. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Les bancs des écoles sont aussi restés clairsemés dans le nord-est, mais aussi dans de nombreuses villes d'Haïti, à Jacmel, à Mirebalais ou Hinche. On a surtout vu des élèves dans les écoles privées, nous dit le journal Le Nouvelliste. Dans les établissements publics, les enfants manquaient à l'appel et Le Quotidien ajoute qu'à Saint-Marc, la plupart des écoles ont renvoyé les élèves chez eux, leur demandant de revenir la semaine prochaine. Même chose au Gonaïve, écrit Le Nouvelliste, où des établissements scolaires ont préféré organiser des activités religieuses pour l'occasion. Et la situation ne va pas s'arranger tout de suite puisque les Nations Unies annoncent ce matin qu'Haïti compte plus de 700 000 déplacés et la moitié d'entre eux sont des enfants.
RFI Midi.
Le Mexique a une nouvelle présidente, la première femme de l'histoire du pays. Claudia Sheinbaum a pris ses fonctions hier et nous recevons pour en parler David Recondo, chargé de recherche au CERI à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Alors, elle a promis de poursuivre des réformes, notamment sociales. Mais est-ce que Claudia Sheinbaum pourra avoir la marge de manœuvre suffisante? Parce qu'elle prend aussi les rênes d'un pays qui est en sérieux déficit.
Oui, il y a un déficit. Il y a aussi son prédécesseur hein, dont on n'est pas sûr qu'il n'ait pas des vues sur la continuité de son programme initial. Et que voilà, donc elle est entourée elle-même de gens qui font partie de la majorité présidentielle du Sexena qui vient de terminer. Donc il y a cette circonstance globale, économique, mais aussi de sécurité qui est difficile, hein, puisqu'il y a de gros affrontements entre les cartels, notamment dans la région du nord du Mexique, le Sinaloa, ou le grand cartel de Sinaloa, l'un des plus gros cartels du pays, est divisé en deux fractions qui s'affrontent.
Elle en a parlé de la sécurité, puisque vous le mentionnez, ouais. C'est vraiment un problème majeur au Mexique. Voilà ce qu'elle a dit dans son discours hier, écoutez.
J'ai bien en tête que ma responsabilité est de mettre le Mexique sur le chemin de la paix et de la sécurité. Je garantis une diminution des crimes.
Voilà, alors d'autres ont fait la même promesse avant elle. D'ailleurs, elle ne dit pas qu'elle va rétablir la sécurité, mais qu'elle va faire baisser les crimes. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus que son prédécesseur?
Elle peut pas faire grand-chose de plus. Elle aura toutefois une garde nationale qui est sous la tutelle du ministère des Armées, de la Défense, pour continuer peut-être à essayer de limiter les effets collatéraux des affrontements et de la concurrence entre cartels. Je n'ai pas l'impression qu'elle est en tête d'avoir une stratégie particulière de lutte contre un trafic, notamment de drogues synthétiques, de drogues de synthèse qui dépasse complètement le gouvernement, le pays, puisque en fait c'est vraiment des entreprises transnationales, ces cartels. Donc c'est peut-être qu'on pourrait attendre quelques innovations dans deux domaines. Une lutte sur le front des finances et des circuits de blanchiment d'argent. Ça a toujours été un point faible, peu développé encore, et tous ces circuits financiers pourraient être quand même ciblés un peu mieux. Et deuxièmement, une meilleure coopération avec le gouvernement des États-Unis.
Est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait donner avec les États-Unis ?
Oui, je pense que la relation, elle devrait être bonne. Cette relation a été bonne, même au pire des moments, et on peut penser d'ailleurs au moment où Trump était déjà président, avec un López Obrador qui avait, donc le président sortant, une position très un peu souverainiste, très nationaliste, mais qui finalement, au-delà de la rhétorique, s'entendait très bien avec le président des États-Unis. Donc voilà, Sheinbaum a une surface internationale bien plus grande que son prédécesseur. Elle parle parfaitement bien l'anglais. Elle a fait un passage par l'université de Stanford en Californie. Tout indique que les relations devraient être plutôt bonnes. Alors bien sûr, il faudra voir ce qui se passe lors des prochaines élections aux États-Unis. Mais voilà, il n'y a pas aucune raison pour qu'il n'y ait pas une capacité. Elle a été elle-même très claire là-dessus, une capacité, une possibilité de coopération sur ce plan-là, sur la sécurité comme sur le reste, c'est-à-dire les échanges commerciaux, etc.
Alors, elle a beaucoup parlé donc des réformes sociales. C'est aussi le principal bilan du président sortant, AMLO, que vous évoquiez à l'instant. Et pourtant, la pauvreté, elle est encore très importante au Mexique.
Oui, la pauvreté et peut-être surtout les inégalités. Alors, c'est deux choses qui sont liées, mais toutefois assez différentes. Et il y a eu une réduction des chiffres, de meilleurs chiffres sur le plan de la pauvreté, tout court. Mais pour l'extrême pauvreté, il y a eu une augmentation relative. Donc, c'est toujours très difficile, évidemment, à contrôler. Il y a quand même plutôt une bonne tendance donc, auprès d'une partie de la population qui est sortie d'une situation de pauvreté par ces transferts directs d'argent sous forme de subventions, de bourses, d'aides aux personnes âgées, etc. Les bourses pour les collégiens, les lycéens en particulier, ont été particulièrement efficaces et aussi très bien reçues et très, très appréciées.
Donc ça, c'est pour un bilan qui est plutôt positif de la part de AMLO. Elle hérite aussi d'un dossier qui est beaucoup plus sensible, c'est la réforme de la justice, très contestée ces dernières semaines. Elle prévoit de d'élire les juges. Est-ce que vous pensez que Claudia Sheinbaum pourrait revenir dessus ?
Eh bien, c'est très difficile. Pour l'instant, elle dit qu'elle ne reviendra absolument pas dessus. Donc, si on prend en compte seulement son discours, et notamment son discours d'hier au moment de la passation de pouvoir, on a l'impression qu'elle y va en ligne droite, tête baissée, sans changer quoi que ce soit. Mais en même temps, elle a quand même mis quelques petits bémols et des précisions en fait, qui sont très importantes, car le diable est dans les détails. C'est-à-dire, oui, des élections des juges à tous les niveaux, du pouvoir judiciaire fédéral, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Mais attention, à partir d'une présélection sur des critères de compétences, en prenant en compte les compétences techniques, donc professionnelles, mais aussi en prenant en compte la carrière déjà faite, la trajectoire des candidats. Donc oui, il y aura toujours un risque de politisation, il y aura toujours un risque finalement que diverses organisations puissent vouloir se mêler des élections.
Excusez-moi, la ligne se dégrade et on arrive malheureusement au bout du temps qui nous est imparti, mais on comprend qu'il y a des aménagements possibles de cette réforme de la justice. Je vous remercie, David Rocondo, d'avoir été en ligne avec nous, chargé de recherche au CERI à Sciences Po. RFI Midi.
Anne Cantner.
Joe Biden et Kamala Harris sont attendus aujourd'hui dans le sud-est des États-Unis, dans les zones dévastées ces derniers jours par l'ouragan Helene. 155 morts, au moins, des dégâts matériels considérables dans plusieurs États, dont la Caroline du Nord, où s'est rendu notre envoyé spécial David Thompson. Là, certains villages ont quasiment disparu, emportés par les eaux. C'est le cas de Marshall, un millier d'habitants avant l'ouragan.
Lorsque l'eau de la rivière s'est engouffrée dans son village, Johnny Crash, artiste de 57 ans, s'est réfugié sur un toit. C'était irréel, dit-il. J'ai vu des troncs d'arbres, des semi-remorques, des containers flotter dans la rue. En quelques heures, il a aussi vu les maisons disparaître l'une après l'autre, y compris la sienne, emportée par la rivière. Quatre jours après, Johnny se tient là, debout, sur les ruines, complètement hagard. Son village Marshall a été rayé de la carte par l'ouragan Helene.
C'est incroyable. Il y avait genre 10 bâtiments juste ici. Ces 10 bâtiments n'existent plus. Ici, il y avait une église totalement disparue. Il ne reste que des ruines.
Dans cette vallée touristique des Appalaches, il n'y a pas que les maisons qui ont disparu. Les morts se comptent par dizaines. Johnny a vu des habitants se noyer sous ses yeux.
C'est un monsieur qui est mort parce qu'il refusait d'évacuer. L'eau a monté si vite qu'il a fini par crier au secours, mais les secours n'ont pas réussi à l'atteindre pour le sauver.
Et pendant ce temps, des policiers et des volontaires en combinaison blanche passent les berges de la French Board River au peigne fin, à la recherche de victimes décédées. Les premiers jours, Rocky, un guide de rafting de 31 ans, a fait partie de cette unité chargée de repêcher les corps des noyés, une tâche devenue trop éprouvante pour lui.
C'est terrible, ce sont des images que tu ne peux pas sortir de ta tête.
Et les autorités parlent de 600 disparus, un chiffre que Rocky juge réaliste. David Thompson, Marshall en Caroline du Nord, RFI.
Et on vous retrouve, David Thompson. On vient d'entendre donc votre reportage tourné dans ce village de Marshall. Les ravages causés par l'ouragan Helene sont en train vraiment de devenir un véritable enjeu de la campagne électorale là aux États-Unis.
Oui, cet ouragan Helene est en train de devenir un vrai sujet dans la campagne américaine. On peut dire à retardement, puisque c'est vraiment 4 voire 5 jours après le passage de l'ouragan Helene que la réaction politique se manifeste véritablement, avec cette visite de Donald Trump d'abord en Géorgie et puis ensuite celle de Joe Biden et de Kamala Harris en Caroline du Nord. Les deux États, à n'en pas douter, les plus touchés par ce désastre. Une réaction politique en retard parce que, en fait, les États-Unis prennent tout juste aujourd'hui la mesure de la gravité absolument exceptionnelle de cette catastrophe. Au moment de l'impact de l'ouragan, les États-Unis pensaient être passés un petit peu à côté du pire, si j'ose dire. Et en réalité, à mesure que les secours accèdent à des zones isolées, découvrent des villages qui sont quasiment totalement rasés, en retard, on découvre un nombre de victimes absolument colossal, avec des centaines de personnes qui sont toujours portées disparues.
Et malgré des campagnes qu'on imagine très denses, hein, des déplacements qui sont prévus longtemps à l'avance, les deux candidats à la présidentielle ont trouvé le temps donc de se rendre dans les zones sinistrées, David.
Évidemment, à moins d'un mois de la campagne présidentielle américaine, aucun des deux candidats ne peut se permettre de rater, entre guillemets, sa réaction sur cette catastrophe absolument exceptionnelle. Évidemment, chacun s'invective, chacun s'accuse de ne pas en faire assez. Les attaques de Trump ont commencé en ce sens, en accusant Joe Biden de ne pas réagir assez vite. C'est vrai que moi, personnellement, sur le terrain, je n'ai pas vu d'aide gouvernementale arriver. Les habitants se débrouillent tout seuls, ils retroussent leurs manches, ils sortent les pelles, les tracteurs, ils déblaient, ils essaient de reconstruire des aujourd'hui, mais ça, c'est aussi l'esprit américain. Sur le terrain, j'ai traversé des zones à la fois pro-Trump et à la fois pro-Biden. Et la réalité, c'est qu'en réalité, personne n'attend véritablement quoi que ce soit du président ou d'un des deux candidats à la présidentielle américaine.
David Thompson, envoyé spécial en Caroline du Nord. Et on va rester aux États-Unis, mais pour parler politique, d'une joute politique avec une bonne dose de gentillesse du Midwest. Voilà comment le Washington Post résume aujourd'hui le débat d'hier soir entre les candidats à la vice-présidence, les colistiers de Donald Trump et de Kamala Harris. Le ton était poli, insiste la presse, mais des attaques tout de même assez virulentes envers les candidats. Voici par exemple ce qu'a dit le républicain J.D. Vance de Kamala Harris en parlant du contrôle de la frontière mexicaine.
J'ai une mère qui a lutté contre une addiction aux opiacés et qui s'est sevrée. Je ne veux pas que les gens qui luttent avec leur addiction soient privés de leur deuxième chance parce que Kamala Harris a laissé entrer du fentanyl dans nos communautés à des niveaux records. Il faut arrêter l'hémorragie.
Le colistier de Donald Trump, qui a refusé lors du débat de reconnaître la défaite de son candidat à la présidentielle de 2020, refusant donc de s'opposer à la théorie du complot véhiculée depuis 4 ans maintenant par le républicain. Et ça a fait réagir le démocrate Tim Walz sur le plateau. Écoutez.
Je pense qu'il faut régler nos différends dans les urnes, se serrer la main quand on perd, être honnête à ce sujet, mais ne pas nier ce qui s'est passé. Le 6 janvier, c'était la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président ou quiconque tentait de renverser une élection équitable et le transfert pacifique du pouvoir. Et nous voilà 4 ans plus tard dans la même situation. Alors je vous le dis, lorsque tout cela sera terminé, nous devrons nous serrer la main et le vainqueur devra être le vainqueur. Cela doit cesser. C'est en train de déchirer notre pays.
Voilà, des sujets de fond sous des aspects bien plus lissés et polissés que le débat entre Kamala Harris et Donald Trump. De l'avis de la presse, c'est un match nul. Je vous propose d'écouter l'analyse de Joël Goldstein, professeur émérite à l'Université de droit de Saint-Louis, spécialiste des vice-présidents.
J.D. Vance voulait clairement parler davantage programme que Donald Trump. Il a aussi beaucoup attaqué la vice-présidente Kamala Harris, lui reprochant à peu près tout ce qui ne va pas. Donc il a vraiment adopté le rôle du candidat à la vice-présidence comme un attaquant. Je pense que certaines de ses attaques, quand elles seront fact-checkées, ne tiendront pas. Par exemple, Kamala Harris n'était pas la tsarine de la frontière, elle n'était pas en charge du dossier de l'immigration. Je pense aussi que lorsqu'il s'est rendu à ce débat, J.D. Vance n'était pas vraiment en position de force, donc il avait probablement à cœur de faire bonne impression et de paraître plus aimable.
Voilà, le colistier de Kamala Harris, lui, était déjà perçu comme plus sympathique. C'est aussi ce qu'a expliqué l'analyste Joël Goldstein, qui considère que Tim Walz aurait pu être un petit peu plus pugnace et qu'il aurait pu faire moins de références à son état du Minnesota pour parler davantage des États-Unis et critiquer un petit peu plus les Républicains. Voilà pour l'analyse de ce professeur émérite à l'Université de droit de Saint-Louis aux États-Unis.
RFI Midi.
Et on vous retrouve maintenant, Benoît Ferrand, pour l'actualité des Outre-mer françaises. On est encore loin du compte, hein, c'est ce que dit en résumé le mouvement à l'origine des manifestations contre la vie chère en Martinique.
Eh oui, alors que les négociations doivent en principe reprendre lundi prochain, qu'un protocole est d'ores et déjà sur la table, Aude Goussard et Rodrigue Petitot, respectivement secrétaire et président du RPRAC, ont exprimé hier sur les ondes de la première Martinique leur insatisfaction et leur impatience.
Pour nous, c'est un document qui manque d'ambition. C'est un document qui ressemble un petit peu à une redite de 2009, avec une proposition de baisse sur à peu près 6000 produits. Comment dire à un Martiniquais, tu paieras un prix convenable que sur 6000 produits? Pourquoi nous devons accepter ça?
Ce protocole n'a aucun sens. Le mot engagement doit revenir au moins une vingtaine de fois, mais il n'y a jamais le mot contrainte. Ça veut dire que s'il n'y a pas de contraintes, forcément, il n'y a pas d'engagement.
Rodrigue Petitot, qui doit contraindre qui et sur quoi, par exemple?
L'État doit contraindre la grande distribution à respecter ses engagements. On dirait que la grande distribution, c'est un monde à part qu'il ne faut surtout pas toucher, il faut les caresser. Ils sont en train d'appauvrir le peuple qui les a enrichis.
De son côté, toujours sur les ondes de la première, la sénatrice Catherine Conconne a plaidé pour une révolution en Martinique. Révolution dans les mentalités et dans l'action. Elle répondait ce mercredi matin aux questions de Grégory Gabour.
Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on est toujours en Martinique en mode protestation, en mode constat et en mode regret. On a les mêmes formes de revendications que dans les années 60 ou dans les années 70. À aucun moment, on ne s'assied autour d'une table en amont et on arrive frais, déterminé devant un gouvernement pour lui dire voilà ce que nous voulons. On reste toujours dans l'émotion de la revendication. J'appelle de mes voeux qu'on change de méthode, qu'on puisse anticiper ce genre de crise. On fait les mauvais diagnostics.
Catherine
et
Conconne.
On s'arrête au constat et on s'arrête à la rouspétance permanente dans laquelle nous sommes englués depuis des décennies. Changeons de braquet, changeons d'attitude, devenons un peuple mature qui se saisit d'un sujet et qui y travaille de manière efficace afin d'arriver devant les gouvernants. On n'est plus à l'époque de Papa Chirac qui venait manger des acras et boire un petit punch sur le bord de mer du Robert. On a face à nous un autre style de gouvernant. Eh bien, face à eux, il faut être crédible. Ne nous transformons pas en djinn.
Fin de cette édition. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi se termine. Je vous retrouve demain, 11h, temps universel. Mais vous restez sur notre antenne, bien sûr. Dans quelques secondes maintenant, Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Émission enregistrée à la Gaîté Lyrique à Paris, au Festival de la Francophonie. Avec cette question, refaire le monde. Tout un programme. Bonne journée.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
En direct de la Gaîté Lyrique au cœur de Paris où se tient Refaire le Monde, le festival de la francophonie, avec l'écrivain martiniquais Raphaël Confiance, son nouveau roman Marie-Héloïse, fille du roi, se nourrit de la grande histoire et d'une langue pétrie du français d'hier et d'aujourd'hui, du Québec et des Caraïbes, de créolité aussi.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.